Merci François Terral, merci aux deux intervenants. On va pouvoir passer maintenant aux questions. Je vais juste ouvrir les questions et puis vous allez pouvoir prendre la parole. Je trouve qu'il y a dans vos deux exposés quelque chose qui se répond. Il y a comme un dialogue, donc je vais vous proposer de dialoguer à partir de deux questions. Vous avez tous les deux relevé qu'il existe un écart entre les dits du collectif et ce qui, en ce qui concerne la politique, et le dire de l'inconscient, qui lui est singulier. Et vous avez aussi souligné l'effet de langage comme identité de structure, hein, en ce qui concerne le politique, enfin la politique et l'inconscient. Alors voilà les questions. Est-ce qu'on peut rapprocher la politique au sens large des effets de l'acte analytique, hein? L'acte analytique modifie la politique du sujet, c'est ce que vous avez amené tous les deux, ça c'est toi, Elisabeth. Donc il modifie donc, la politique du sujet dans son rapport aux autres, dans son éthique, dans la façon de redimensionner ses modes de jouissance, et il ouvre pour l'analysant la possibilité d'un dire nouveau. Alors, est-ce qu'au niveau du collectif, il y a quelque chose qui s'exprime de l'ordre d'un dire, un dire au-delà des dits? Et puis, une deuxième question, dans la formule « l'inconscience et la politique », de quel inconscient parle-t-on? Enfin, c'est une formule qui est datée, mais vous avez tous les deux aussi de l'inconscient réel, donc il y a l'inconscient effet de langage et l'inconscient réel auquel vous avez fait allusion, il y a cette dimension politique possible. Donc est-ce que vous pouvez revenir aussi sur ce point et en dire quelque chose? À qui vous commencez?
Merci Patricia. Concernant ta première question, je pense que les textes de François avancent plus que moi. Je n'ai pas réfléchi à la politique au sens large. Je réfléchis plutôt, je me suis cantonnée à cette définition de l'inconscient comme politique et comment la position du sujet implique une politique qui est corrélée à sa position, son propre conscient. Donc je me suis arrêtée là et je saurais te répondre aussi si on pourrait au niveau d'une politique générale envisager des suites d'un acte semblable à ce qui se passe dans l'analyse. Je ne saurais pas. François, tu as peut-être une idée.
C'est plus sur la première question que j'ai une petite idée par rapport à ce que j'ai pu dire et ce qu'on a changé. Donc, comment la question de rapprocher la politique des effets de l'acte analytique. Moi, il me semble que l'acte analytique, oui, je dirais qu'il, je me notais ces deux trois mots comme ça. Il va chercher la réponse du sujet. Il va interroger la position du sujet. Il va interroger, on pourrait dire aussi, la résistance du sujet. Oui. Je voulais décliner ces termes qui sont quand même tout à fait articulables à la question de la politique. Mais là, effectivement, donc, avec l'intérêt, je crois, de ce qu'on travaille quand Lacan nous dit l'inconscient, c'est la politique, de ce que ça concerne bien le sujet et pas le collectif.
Et pas le collectif. Bon, vous avez parlé quand même d'Anna Arendt et de son approche. Donc il y a quelque chose, en tout cas, dans le séminaire La logique du fantasme, vous avez bien cerné la question de l'objet et ce qu'on peut en dire d'un point de vue plus général.
Arendt, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne résume pas la question politique au collectif, quoi. C'est ça que je trouve important. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai lu. C'est qu'à chaque fois qu'elle va essayer de définir un peu le point le plus précis de ce que ça peut être la politique, elle en vient quand même à la relation, à ce qui se passe entre les hommes. Mm-hmm. Et ce qui se passe entre les hommes en tant que ça commence déjà dans la famille. Et effectivement, elle souligne aussi au passage que ça n'est pas un lieu politique, mais c'est quand même là qu'on est la politique.
Ça, Aristote dirait la même chose. Il commence par la famille, par le fait que les mâles et femelles doivent s'unir.
Oui, tout en soulignant, c'est ça qui me paraissait important, c'est que c'est en même temps pas le lieu où se vit la politique, parce que ça va se vivre à l'extérieur. Et ça vient de là, ça part de là.
C'est qui est intéressant, on voit la difficulté du thème, c'est-à-dire oui. Parce que on est obligé presque, on ne résiste pas à la tentation d'essayer de convoquer d'autres auteurs pour traiter la question de la politique. C'est la difficulté du thème de cette année, hein. Je ne suis pas sortie.
Martine ?
Oui ? Oui, alors, ce que vous venez de dire, là, ça me fait penser à le slogan de exactement une année après de la travail de ça, c'était « Le privé et politique ». Le privé, c'est le politique, pas la politique. Alors, c'est ce qu'on voit bien, ça fait l'instant.
Je ne sais pas, mais on pourrait forcer un peu de trouver.
Et alors, comment vous articulez ça? Le privé, c'est le politique, avec la politique. La conscience, c'est la politique. Parce que là, c'est le privé, c'est le politique, c'est. Vous vous souvenez de ce slogan?
Non. Pas du tout.
C'était un des slogans porteurs de 68. Le privé, c'est le politique, avec l'idée que, effectivement, le politique commençait dans la famille et dans les liens entre les hommes et les sexes. Non, il n'y a que moi qui me rappelle.
C'est privé. Est-ce qu'on pourrait donc appeler la conscience et la conscience réelle,
oui.
Oui. Enfin, moi je crois qu'il y a sans doute des liens à faire, mais là tout de suite je pense qu'à partir du moment où Lacan pose cette idée de l'inconscience à la politique, il me semble que ce qu'il nous enseigne ensuite ne contredit pas ça. Je vois pas pourquoi on pourrait pas dire qu'effectivement ça peut se articuler aussi à la dimension de l'inconscient réel. C'est quand même à partir de ça qu'il y a, pour le sujet, la possibilité de prendre position. Enfin, je parle de ça, l'inconscient réel. Donc je ne ferai pas de saut particulier à ce niveau-là.
Non, c'est ça que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire je pense que l'inconscient réel en soi n'a pas d'amitié qui tienne, c'est-à-dire c'est pas des liens. Donc là, à ce niveau-là, disons, de par sa nature, je dirais entre guillemets, comme ça,
ça
résiste aux politiques. En revanche, quand dans une analyse on arrive à ces points-là, je pense que cela, c'est ça que j'ai essayé de dire, ça a des conséquences politiques, parce que je pense que ça vient à tempérer beaucoup de choses, notamment l'essence qu'on donnait à la réalité par les fantasmes. Et donc, il y a paradoxalement cette rencontre avec quelque chose qui est tellement singulier et qui échappe tellement que je pense que ça modère les liens avec les autres.
Oui, et puis tu as évoqué...
Comme effet.
Tu as évoqué le plan de langage qui rappelle un peu ce que dit Martine. En fait, ça commence avec ce plan de langage dans la famille.
Ouais. Ça, je trouvais très curieux, par exemple, qu'Aristote commence la politique Ne vous trompez pas, je n'ai lu que les premiers chapitres. Parce qu'après, ça tombe des mains. Mais et il commence par ça. Donc il dit, ça commence, il faut que le mâle et la femelle s'unissent pour générer d'autres. Après, il a même une très jolie formule, il dit, il n'y a pas de mots pour les rapports entre l'homme et la femme. C'est anonyme, anonyme. Il n'y a pas de mots pour les rapports entre l'homme et la femme. Mais il commence là.
Alors justement, c'est très joli, moi je suis d'accord. Mais l'école n'est pas une ruche, aucun groupe humain n'est une ruche.
Aucun, c'est ça.
Mais les analystes sont supposés avoir un certain tempérament dans leur lien aux autres, grâce, enfin tout ce que David a développé. Absolument sympathique. Mais c'est complètement démenti par l'expérience.
Alors, c'est très, très alors, ça c'est très intéressant parce que ça c'est très intéressant parce que j'ai pas développé ça non plus, mais la question. Qu'est-ce qui reste? Parce que je disais aussi que les modes de jouissance ne sont pas modifiés non plus complètement par l'analyse. La question, c'est que qu'est-ce qu'on fait de ça après? Même avec tout. Je pense que Lacan parlait du solde cynique à la fin de l'analyse, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir tous des Diogènes. J'ai passé un temps là à lire les fragments des cyniques, c'est très intéressant, mais est-ce que ça ne, à la fin, donc, pour une école de psychanalyse, est-ce qu'il y a peut-être un usage, on ne sait pas, parce que là, ça l'analyse ne peut pas déterminer, quel est l'usage que chacun fera de ce qu'il a appris sur sa propre jouissance. Mm-hmm. Et peut-être que dans un groupe analytique, on peut même se lâcher un peu plus que... de façon un peu moins contenue qu'auparavant. Donc ça doit être une sorte de... Mais je pense qu'on y est avec ce qui reste de nos fantasmes aussi. D'une façon peut-être moins retenue, parfois. Je sais pas. C'est comme ça que je pense. Enfin,
moi, j'avais envie de dire que sans doute on a des expériences qui contredisent, mais pas toutes les expériences quand même. Mais pas toutes les expériences qu'on vit dans les groupes d'analystes viennent contredire ça. C'est pour ça que je disais à la fin, moi, succès insuffisant assuré, mais ça veut dire succès quand même. Bon, il me semble que quand même il y a des choses qui tiennent dans les écoles de psychanalyse.
Tu es pessimiste, Marc.
On serait pas là sinon.
Moi, je constate.
Ça marche, non? Et c'est allumé.
Je constate de fait de ce que Lacan a. Ça. Depuis que Lacan a fondé l'école. L'école freudienne de Paris. Il y a une disparité. Une qui ne cesse pas, jusque dans le forum, dans le livre, mais partout, partout, partout. Alors on peut dire c'est machin avec machin, c'est les transferts, mais il y a quand même un phénomène qui a l'air de dépasser les individus, qui se retrouvent partout.
Oui, mais. Je suis absolument d'accord avec vous. Oui, mais personne ne se retrouve hors collectif. On se sépare et on se retrouve.
On se retrouve.
On se retrouve ailleurs avec d'autres. Alors je vais vous raconter une histoire juive. Je trouve très, très intéressante de ce point de vue-là. C'est un brave Moshe qui, le jour du Shabbat, se promène et il arrive sur un terrain de golf et pour sa surprise il voit une balle, mais il n'a pas le droit d'y toucher évidemment. Alors il regarde à droite, il regarde à gauche, personne. Je dis bon, personne ne le saura. Donc il envoie sa balle et il fait une balle comme personne n'en a jamais fait. Là-dessus, l'archange principal s'adresse à Dieu et lui dit, mais enfin, c'est insensé. Non seulement il n'est pas puni, mais vous lui assurez un succès fantastique. Qu'est-ce que c'est que ça? Et Dieu lui dit, mais réfléchis un peu. À qui va-t-il le raconter? À qui va-t-il le raconter? C'est-à-dire que la logique de sissiparité existe parce que les jouissances ne sont pas toujours compatibles, mais pour le parlant, il faut l'autre. Il faut l'autre, il n'y a pas à tortiller. Il faut que... Ou alors c'est les autistes profonds, mais on les retrouve grabataires ou au fond des hôpitaux. Mais la logique, si tu veux, va vers séparation-réunion. Ça se tient. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette petite histoire que j'ai lue par hasard, parce que je trouve qu'elle est très, très surprise, très en prise sur l'expérience. Finalement, ce qui nous occupe dans ce thème-là, c'est assez petit dans vos deux exposés, dont je vous remercie, hein, c'était très riche, mais c'est comment les finalités, puisque avec la politique on parle des finalités, comment les finalités ou une par une, privée, comme on dit, de chacun, arrive à s'accorder avec les finalités de la police, POLIS, hein. Bon, du collectif ou de la cité. Et l'idée de Lacan, c'est qu'il y a un joint intime entre les deux, hein, que ce n'est pas deux champs différents, séparés. Alors après... ce joint extrêmement serré, il n'est pas si facile à saisir, et c'est là-dessus qu'on s'occupe en quelque sorte. Mais effectivement, sur la question, Lacan parlait de l'inconscient fantasme, en fait, quand il a dit cette phrase. Alors après, on se pose la question, Elisabeth, vous avez posé cette question, est-ce qu'avec l'élargissement un peu du concept de l'effet de langage et la production de la jouissance opaque du symptôme, est-ce qu'on dirait la même chose? Mais au fond, la jouissance opaque du symptôme, elle ne va jamais toute seule. Elle ne va jamais toute seule. Il y a toujours en même temps, elle est nouée, c'est la vertu du nœud, ça. Elle est nouée à la jouissance du fantasme, et elle dépend du dire du sujet. Donc, on peut pas, je ne crois pas qu'on irait dans le sens de dire là, on a un facteur asocialisant. C'est vrai, c'est un facteur asocialisant. Mais ce facteur asocialisant, il est pris dans le nœud avec les autres jouissances et dans la nécessité, où est le parlant, la nécessité de l'autre, aussi narcissique soit-il. Chacun sujet, aussi autiste soit-il, il lui faut l'autre. Moi, c'est mon idée. Ce n'est pas une idée optimiste, hein, mais je crois que c'est la réalité.
Oui, bien sûr. Isabelle disait plus de tolérance.
Pas seulement.
Au niveau privé, oui. Au niveau privé, on constate bien ça. Peut-être pas au niveau de la vie collective, mais au niveau intime, privé, avec les tout proches. Oui. On s'assouplit un peu quand même. c'est quand même vrai.
Oui, mais tu as raison, Marc, de souligner ça, parce que c'est pas ces résultats candides. Hein, il y a aussi.
Oui, il faudrait convoquer les conjoints et les enfants.
Non, mais oui. Oui, tu as raison.
On est partis tous les soirs.
Thank you.
je suis frappée par le nombre de fois où Lacan, évoquant sa passe, évoque la politique immédiatement, en même temps et avec. Il y a beaucoup de... Il faudrait faire le moteur de recherche. Je m'imagine pas ça bien, mais ce serait bien de faire ça. Il y a beaucoup de passages où il dit « ma passe et la portée politique de ma passe ». La politique et ma passe. Donc...
Ça, ça se vérifie expérimentalement. Beaucoup de clivages, des scissions tournent autour de la passe.
Oui. Est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est le... la première victime.
Mais, d'ailleurs, il faudrait se questionner pourquoi faudrait-il rester tous ensemble, toujours. Non, non, mais oui. C'est sérieux. Nous parlons de notre amour des différences. Il y a des différences, il y a des différences individuelles. Et puis il y a des différences qui sont collectivisables entre elles et pas avec d'autres. Et donc, après tout, on va former la masse uniforme.
Non, mais tu... Sur ce point, tu as raison. Est-ce que le tout venant ne peut qu'être sensible, comme je le suis ? À l'écart entre la cohérence du discours...
Tu es tout venant, toi ?
Oui, absolument. Absolument. La cohérence absolue du discours que tu as tenu et la réalité des faits. Il y a quand même beaucoup de gens qui s'étonnent des avatars de la vie institutionnelle des psychanalystes.
Oui.
C'est sûr que ça intrigue. Moi, ça m'intrigue, bien que je sois à l'intérieur, mais ça intrigue encore plus les gens à l'extérieur.
Oui, mais à ces gens que ça intrigue, il faut les inviter à réfléchir à ceci. Où est-ce que les conflits individuels ne provoquent pas de scission ? Non, dans les grandes institutions d'État, l'université. C'est des paniers de crabes, c'est des bagarres, mais il y a la structure institutionnelle, il y a les titres... qui sont indéboulonnables, il y a la hiérarchie, il y a les procédures de progression, donc tout ça tient. Mais tous les groupes où il n'y a pas une structure comme ça instituée, les artistes, regardez toute l'histoire de la littérature, regardez les surréalistes, regardez la peinture, regardez tous les groupes qui se créent en musique, il se défend, en peinture il se défend, en poésie il se défend, partout il n'y a pas cette structure, donc ce n'est pas le propre des groupes analytiques. Ce qu'il y a, c'est que les groupes analytiques ne font pas exception. Alors, les gens de l'extérieur qui prétendent vouloir idéaliser la psychanalyse disent
non,
ben, c'est un mauvais
signe. Simplement, écoute ce qu'a dit Elisabeth.
Oui.
Je suis optimiste.
Bon, allez,
je suis dans une phase optimiste.
On peut peut-être arrêter sur ce point. Qui veut le micro ?
La parole.
Mais juste
je vais parler.
Bah, passez le temps.
Oui.
Il ne marche pas tout de
suite. Il ne marche pas.
Alors, une question par rapport à deux énoncés. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Par rapport, donc, l'inconscient réel s'oppose à la politique, résiste à la politique, d'un côté.
Non, je n'ai pas dit ça.
Comment, quelle était la formule? Que ça ne s'applique pas, enfin...
Résisterait s'il était...
C'est dans la discussion.
Oui, enfin, j'ai entendu cette formule, enfin, que la politique de la formule s'applique à l'inconscient, enfin, structuré comme un langage fantasme. Et d'autre côté, donc, Colette disait, la jouissance, enfin, opaque du symptôme, quand même, bien qu'elle soit d'une certaine façon autistique, enfin, elle se noue.
Mais oui.
Alors, est-ce qu'on peut, je me pose une question, oui. je vous la pose, est-ce qu'on pourrait se dire quelle politique pour l'inconscient réel? Peut-être une à définir. Hein, et une deuxième question pour vous, je vous remercie pour les exposés très intéressants. Qu'est d'une politique d'une école de psychanalyse? Est-ce qu'on peut parler de... On est une école de psychanalyse, est-ce qu'on peut parler de la politique d'une école, de notre école? Et comment? Qu'est-ce que ça veut dire, enfin, pour vous?
Peut-être, sur la deuxième question, me venait, par rapport à ce qui était évoqué par Colette et Marc Strauss, Colette Soler et Marc Strauss, me venait la question de la politique étrangère des écoles de psychanalyse. La politique étrangère, c'est repéré, d'ailleurs, déjà dans Aristote, il dit que, dans les éléments là que tu as évoqués, Elisabeth, il dit que finalement, la cité se forme quand plusieurs villages commencent à se fédérer. Hein. On pourrait imaginer que c'est exactement ça qui manque aux abeilles, c'est-à-dire qu'elles sont dans des ruches, mais elles ne se mettent pas ensemble pour créer des cités de ruches. Donc, il me semble que ça pose la question de la politique étrangère, c'est-à-dire de ce qui peut se jouer de lien entre différentes cités. Et moi, je me demande s'il n'y a pas une question importante pour les écoles de psychanalyse quand même. De comment on peut soutenir qu'à un moment donné, même si on a effectivement rencontré des désaccords, même s'il y a eu des scissions, même s'il y a eu des séparations... comment on peut soutenir l'idée qu'à un moment donné, on a aussi à se retrouver pour échanger, pour parler. Il me semble que ça renforcerait quelque chose de la politique de l'école.
Elle se lit quand elle a un ennemi extérieur.
Comment?
Elle se lit quand elle a un ennemi extérieur.
Les abeilles?
Oui. Non, vous dites si elle est... C'est
quoi
la
psychanalyse?
C'est une question importante que je ne saurais pas encore complètement étudier ou développer, mais que j'évoque parce que c'est quand même ce qui permet de penser réellement une dimension de la politique fondamentale. Il y a une cité, il y a de la politique quand il y a des liens avec d'autres cités à l'extérieur. C'est pas rien quand même comme question, me semble.
Radouk, par rapport à l'inconscient réel, j'ai posé juste comme question, comment envisager ça avec la politique, et après Colette a complété, bien sûr, il n'est pas tout seul, même la jouissance du symptôme, si nous, aux autres registres.
On en revient quand même au collectif. Enfin, vous avez beaucoup parlé justement de la politique du sujet, et finalement, on ouvre, y a des liens collectifs qui sont en jeu, et voilà, on ramène l'école, on ramène.
C'est ça. Je disais, enfin, moi je voulais vraiment une question, la clinique des fois rapproche.
La clinique.
Oui.
Dans les différentes écoles, quand on part en institution,
oui.
Quand on vient en équipe, dans les discussions, il y a une communication qui s'établit à ce moment-là entre entre, par exemple, des psychologues qui ont des formations d'analyse de différentes écoles, ils se comprennent à ce moment-là, ils avancent dans la compréhension du cas, et il y a une communauté de pensée qui se développe.
Mais je pense qu'on aura l'occasion au long de l'année d'avoir des interventions de collègues qui vont aborder ce point de vue-là. Moi, j'étais plutôt intéressée vraiment à cette phrase, donc conscienciser la politique.
Oui.
Adèle.
Je me posais une question, je me demandais si vous pouvez essayer de penser quelque chose par rapport au statut de l'autre, qui se modifie justement au cours d'une analyse. Et avec cette idée, enfin, je ne sais pas comment on pourrait nouer, mais enfin, quand Freud développe sa psychologie des foules, justement, et qu'il se dit que finalement c'est le leader, enfin, ou une idée qui unit finalement les pères, enfin. Du coup, je me demandais qu'en est-il par rapport au statut de l'autre, enfin, du savoir à la fin d'une analyse, et comment ça peut relier, enfin, comment ça peut influer le lien entre les autres. Enfin.
La question est intéressante, mais c'est difficile d'imaginer quelqu'un qui a traversé l'analyse adhérer comme ça. Hein. À quelqu'un qui incarne un autre leader rassemblé des foules.
Non, mais justement, par rapport à ça, peut-être par rapport à la psychanalyse elle-même.
Ah, psychanalyse elle-même.
Qui est à son savoir, enfin, ou à ce qu'il pouvait en supposer pendant le parcours.
Ouais.
Du fait que ça chute, enfin, que un certain savoir chute, comment ça influe, du coup, son inscription
Tu parles de la psychanalyse, tu parles de chaque psychanalyse.
Peut-être que, enfin, par rapport à. Puisqu'on est quand même parti de cette citation d'une leçon du séminaire sur le fantasme, sur la logique du fantasme, peut-être que quand même on peut se dire que toute la question de la traversée du fantasme va être intéressante à travailler par rapport à la fin de l'analyse et ce que ça produit en termes de position du sujet par rapport aux autres. Enfin, il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui sera important à offrir. Quoi. Parce que quelque part, on peut se dire que justement de ne pas être traversé, ce fantasme, bien, il coupe des autres, il isole des autres. Mais bon, c'est les prochaines séquences, ça marche. C'est difficile.
Je pensais à la. À une autre formule de Lacan, plus ancienne, le collectif n'est rien que le sujet de l'individuel. C'est 49, ça. Et je me disais, en fait, cela est développé en 67. C'est-à-dire que la formule à laquelle il arrive en 67, que vous avez commenté, est-ce que ce n'est pas le développement, l'élaboration de cette idée qu'il formule de façon très concise et un peu énigmatique, une note en bas de page en plus, le collectif n'est rien que le sujet de l'individuel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a introduit la perspective du sujet, la distinction individuelle-collectif n'est plus pertinente. Et du coup, en effet, l'inconscient, c'est la politique.
Ah oui, mais.
Oui, mais non.
Oui, mais.
Si. Seulement, il a vu cette phrase, j'ai aperçu ça récemment.
Oui.
Enfin, c'est pas ce que je vais dire, mais les conséquences. Il a dit cette phrase pour commenter le texte de Freud sur psychologie collective et analyse du moi.
Absolument.
C'est-à-dire que dans la structure du discours du maître, puisque l'Église et l'armée, c'est le discours du maître. Dans la, quand le collectif est structuré en discours du maître, ça correspond à l'individuel. L'individuel et le collectif sont structurés pareil. C'est-à-dire que le soldat, le chrétien, dans son rapport d'amour pour le grand un et de fraternité avec horizontal avec les autres, il est structuré par le discours du maître. Et ça correspond à la structure du discours du maître dans le social.
C'est ça.
Sauf que nous ne sommes plus dans la structure du discours du maître aujourd'hui. Oui, le discours du maître, il est fragmenté, il existe en cellules, mais il n'ordonne plus l'ensemble du champ social.
Oui, et alors, question.
Alors, question, est-ce que
oui,
c'est...
Que je vous pose, attendez, excusez-moi, non, je vous laisse finir.
La question est-ce que la phrase reste valable?
Celle de 49.
Voilà. Ouais. Est-ce que dans l'espèce de fragmentation des liens structurés par le discours du maître, par la hiérarchie du discours du maître, auquel nous assistons aujourd'hui un peu partout, hein, est-ce qu'avec cette fragmentation, on peut continuer à dire que le collectif n'est rien que le sujet de l'individuel?
Alors, moi, je voudrais vous poser la question dans les termes de la formule de 67, puisqu'on n'est pas loin, Elisabeth l'a dit, François aussi, de l'élaboration des discours, qui va venir 3 ans plus tard. Et alors, la structure du discours du maître, Lacan l'applique aussi à l'inconscient.
Non.
Au discours de l'inconscient.
Non.
Si,
on a dit ça parfois, il a dit ça parfois.
Il l'a dit, oui.
Oui, mais pas pour désigner l'inconscient en tant que tel, pour désigner la façon dont on accède à l'inconscient dans la psychanalyse. Dans la psychanalyse, comment on accède à l'inconscient? En produisant DS1, qui vont se rapporter à DS2, et ça se produit dans la même forme que la structure du maître. Mais l'inconscient n'a pas la structure du maître pour la bonne raison que l'inconscient n'est pas un discours. L'inconscient, il existe au discours.
D'accord.
Il est produit dans le discours, mais en lui-même, il n'est pas un discours.
Structuré comme un langage, ça...
Oui. De toute façon, on n'a plus affaire au discours du maître, à la structure du discours, on a affaire au discours du capitaliste.
Oui, c'est ce que je suis en train de dire, oui.
Vous entendez, là?
Donc, est-ce que, question que je vous pose, est-ce que du fait qu'on n'est plus, pour le dire ainsi, sous la domination du discours du maître, tel que Lacan en a formalisé la structure en 70, mais sous la domination du discours du capitaliste, est-ce que, avec ce que Colette vient de préciser, est-ce que ça modifie quelque chose à cette affirmation, l'inconscient, c'est la politique? Vous voyez la question?
Bien, je ne vois pas la réponse.
D'accord, si vous voyez la question...
C'est déjà beaucoup d'avoir une question précise.
Si vous voyez la question, déjà ça...
Mais
pour moi, c'est déjà un début de réponse.
Je me dirais ça dépend où. Il me semble que dans la cure, l'inconscience et la politique, ça fonctionne.
Comme
référence pour penser ce qui se joue dans la cure. Alors c'est pas le même discours, c'est pas le discours du maître, on est d'accord. Mais il me semble qu'on peut quand même difficilement dire qu'on est en permanence dans le discours du capitaliste quand même. je crois qu'il y a quand même, quand on dit fragmenté, le discours du maître est fragmenté, il y a bien des fragments qu'on rencontre de cet ordre-là, donc, on a une expérience des discours quand même très, très diverse, il me semble. Mais moi, je dirais que dans la cure, la formule fonctionne, c'est ça. Hein? Je ne sais pas si ça répond.
Oui, parce que dans la cure, oui, moi je vous suis bien là-dessus, oui. Parce que dans la cure, au fond, le sujet, il déplie le discours de ses rapports aux autres, depuis l'origine jusqu'à l'actuel. Et donc, on peut dire qu'il déplie sa politique, qui est celle de son inconscient. On peut le dire comme ça, hein, qu'on le prenne comme inconscient fantasme ou comme inconscient déterminant symptôme, dans tous les cas, on peut dire ça, c'est très simple même. Oui, oui, oui. Dans la cure, il n'y a pas de doute.
Mais s'il ne fait pas ça, d'ailleurs, il ne vient pas faire l'analyse. Mais non, parce que je crois que... on peut dire que les entretiens préliminaires, c'est de lui permettre de s'inscrire dans ce discours-là. S'il ne s'y inscrit pas, il ne reste pas.
Finalement, l'analyse questionne sa politique.
Oui. Hein? Mais encore faut-il qu'il accepte que ça le questionne à ce niveau-là. Ouais, c'est pas gagné, quoi.
Remarquez, quand un sujet arrive à un certain âge, se dit « qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» il questionne sa propre politique. Et dans l'analyse, c'est bien ça qui est en question. Oui.
Je travaille sur le silence comme un milieu du langage. Et en entamant mon travail, a priori, le constat, c'est que dans le discours capitaliste, il y a un silence non lieu du langage, dans la mesure où il n'y a pas d'humain, tout simplement.
Il n'y a pas
d'humain. Par exemple, si on prend l'exemple de la bourse, il y a 30 ans, elle se faisait à la criée, à New York. Maintenant, ce sont des logarithmes dans un champ perdu en Europe. On ne sait même pas où est-ce qu'il se trouve. Donc, j'ai honte de parler, mais... Donc, il y a un silence comme lieu du langage, mais il y a aussi un silence comme non-lieu du langage. Je prends l'expression d'un anthropologue français qui s'appelle Marc Auger, qui décrit des lieux comme étant des non-lieux.
Des lieux comme non-lieux.
Des lieux
qui sont des non-lieux. Voilà.
Et je transpose ça sur le langage et je trouve que nous sommes dans une ère où il y a des non-lieux du langage et donc un silence. Mais un silence qui n'est pas lieu du langage, parce que ce n'est pas un silence qui renvoie à la jouissance qui pourrait être articulée, par exemple. Dans ce cas-là, dans la cité politique, le sujet ne se trouve pas, ne se trouve-t-il pas marginalisé? Et après, même s'il réhabilite son langage avec son analyste, que peut-il faire de plus? Il se subjective, mais et après.
Ben, il faudrait préciser ce que vous appelez les non-lieux du langage et quelle est la position, quels sont les sujets qui sont concernés dans les non-lieux du langage.
C'est-à-dire que pas tous, c'est ça ce que vous voulez dire.
Bah, oui, ça pas tous et pas toujours.
Ça régit quand même notre, par exemple, environnement. Par exemple, si on regarde le XXe siècle, l'activité économique est régie par des personnes morales, pour la plupart, pas par des personnes physiques. Mm-hmm. Et puis elles vont influencer notre environnement. Et puis l'opinion politique, puisqu'elles ont une place sur l'espace public. Enfin, c'est une question, ce n'est pas un avis, je vous la pose. Donc, qu'en pensez-vous ?
Dans la question que vous posez, est-ce que non-lieu, ça n'a pas un sens juridique aussi ? C'est-à-dire, pas seulement la négation d'un lieu, mais quand on dit un non-lieu dans un... peut-être un procès, quelque chose qui n'a pas lieu, qui est considéré comme n'ayant pas eu lieu, plutôt.
C'est un autre usage.
C'est pas d'autre sens. C'est un autre usage. C'est un autre usage, je ne sais plus l'usage.
Il y a encore des questions ? Oui, non ?
Bon, alors...
Séminaire Champs-Lacanien avec un invité, je vous invite nombreux, le docteur Jean-Charles Pascal, qui va nous parler de la responsabilité du sujet en matière médico-légale. Parce qu'effectivement, c'est souvent extrêmement difficile dans les expertises médico-légales de statuer si le sujet, au moment de l'acte, était responsable de son acte ou pas. Alors, je crois que cette question qui nous concerne tous dans la maison de notre clinique, et donc je vous invite nombreux à venir jeudi prochain.